Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h43 dans quelques instants, vos appels 0826-300-300 avec Thierry Garrier, Éric Revel. En attendant, Benjamin Glaise, on fait le point sur la revue de presse.
Oui, et on commence par le Figaro, Benjamin, avec l'attentat de Rambouillet qui relance le débat sur l'immigration.
Bah oui, en cause le parcours du terroriste, un clandestin régularisé 10 ans après son arrivée en France, un profil bien qui suscite une polémique sur le contrôle des frontières à l'échelle nationale et européenne. Dans son édito intitulé « L'heure des conséquences », Vincent Trémollet-Devidier parle de vérité révoltante. Si jamais Alger avait été expulsé du territoire national entre 2009 et 2019, Stéphanie aurait passé le week-end avec ses enfants. Il rappelle que le meurtrier de la policière arrivé illégalement en France en 2009, il a vécu donc 10 ans avant d'être régularisé, puis sombrer dans l'islamisme.
Oui, l'édito de Vincent Trémollet-Devidier. Autre sujet qui fait la une ce matin, c'est la rentrée scolaire en présidentiel, en présentiel pour les écoles primaires.
Oui, un titre en forme de méthode couée pour Libération, rentrée sous Covid, jusqu'ici, tout va bien. En photo, Jean-Michel Blanquer en train de sauter à cloche-pied dans une cour de récréation, un cliché pris mercredi dernier lors d'une visite dans une école de Seine-Saint-Denis, comme pour illustrer d'une certaine façon la volonté du gouvernement de rassurer parents et professeurs. Un optimisme bien loin néanmoins des réalités du terrain, selon certains, notamment cette syndicaliste enseignante qui témoigne notamment des difficultés à mettre en place les tests salivaires. Concrètement, dit-elle, aujourd'hui, il faudra demander l'autorisation des parents, mais aussi récupérer les cartes vitales. On ne pourra pas tester avant jeudi. D'ailleurs, c'est également à la une de Midi Libre, cette rentrée scolaire, rentrée à haut risque, un protocole plus strict dans les écoles, mais le danger est toujours là, à la fois sanitaire et politique.
Oui, une conséquence du Covid et du confinement, c'est aussi la ruée sur les maisons de campagne.
Oui, c'est à la une, cette fois-ci, du Parisien aujourd'hui en France, un sujet dans l'air du temps, boosté par le développement du télétravail, forcément. Et en ce qui concerne la région parisienne, c'est le marché des résidences secondaires qui explose. Les zones les plus prisées, le parc du Gâtinais, le Vexin ou encore l'Oise où la clientèle représente la moitié des appels dans les agences immobilières. Les Parisiens vont chercher des maisons davantage en grande couronne. Et même les granges partent. Un agent immobilier raconte notamment avoir vendu une grange à 65 000 euros à un couple de Parisiens.
Oui, bon, ça dépend dans quel état elle était, quoi. Bon, du football à la une de l'équipe avec le coup de force de Lille.
Grâce à une victoire décisive face à l'Olympique lyonnais, les Lillois reprennent la tête du classement général de cette Ligue 1. Un succès 3-2 après avoir été pourtant mené 2-0 en début de rencontre hier soir. Ce matin, forcément, cette course au titre de champion de France est toujours aussi serrée. À 4 matchs de la fin, Lille, Paris et Monaco dans l'ordre se tiennent en 2 points.
Ah oui, non, mais c'est extrêmement serré. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça, évidemment. Dans le championnat de France où il n'y avait quasiment plus de suspense avec le PSG qui gagnait quasiment à tous les coups. Là, cette fois, c'est assez chaud et c'est bien pour le suspense. Merci à vous, Benjamin Glaise. On poursuit avec Patrice Maggio, directeur adjoint des rédactions de Nice Matin, qui est avec nous. Bonjour Patrice.
Bonjour à tous.
Avec votre une sur le retour à la vie normale en EHPAD, c'est ça, sur la Côte d'Azur.
Oui, c'est assez sidérant. C'est d'aller aujourd'hui dans les EHPAD de la Côte d'Azur, un département, les Alpes-Maritimes, qui avait connu l'année dernière un drame terrible, puisqu'il y avait eu 38 morts dans une maison de retraite à Mougins. Et aujourd'hui, alors, on ne peut pas dire que la vie est complètement revenue à la normale, puisqu'il y a toujours des gestes barrières, il y a toujours des masques, même s'ils sont plus légers, mais enfin, il y a quand même plus de 90%, 95% précisément, des pensionnaires qui ont reçu une première dose, plus de 70% qui ont reçu 2 doses, donc ça y est, on peut dire qu'ils sont passés à l'étape d'après, et ils sont évidemment très heureux de cette situation.
Ouais, et pas de contamination, quoi, ou moins en tout cas.
Oui, au niveau national, on est passé de 10 000 cas en 2 mois, On est passé de 10 000 cas à 1 600. Donc ça donne bien quand
dans
même
les EHPAD, dans les EHPAD.
Exactement. Tout à fait. Et même les soignants qui étaient un peu réticents, l'ensemble des personnels, maintenant il y a eu une espèce d'effet d'entraînement. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'explications faites par les médecins coordinateurs, mais dans les maisons de retraite où nous sommes allés faire des reportages, visiblement cette bataille-là de la conviction de se faire vacciner a été remportée.
Oui, même s'il y a beaucoup d'endroits encore où aujourd'hui on ne se fait pas vacciner alors que l'on pourrait, et d'autres endroits évidemment où l'on réclame femmes, je pense aux enseignants, parce qu'on parlait de la rentrée scolaire tout à l'heure, hein, et donc c'est toujours limité, normalement, au plus de 55 ans, sauf s'il y a des comorbidités avant, et certains enseignants qui réclament cette vaccination. Merci à vous, Patrice Maggio, d'avoir été en ligne avec nous. C'est ce que l'on peut lire ce matin, et notamment le retour à la vie normale en EHPAD, mais il y a également la mobilisation à Nice aussi pour réclamer justice pour Sarah Halimi, ou encore le rôle des maisons-services, des maisons France Service, hein, dans l'arrière-pays niçois. Merci Patrice Maggio.
Au revoir.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu. Ce matin, Thierry Guerrier, Eric Revel, vos appels comme tous les matins, 0826 300 300.
Oui, absolument. Et il y a notamment ce sujet. On va revenir dans un instant sur, évidemment, Rambouillet, sur le lien immigration et terrorisme. Est-ce qu'il faut faire le lien ou pas? Notre question du jour. Les trains à grande vitesse également, la bataille du rail dans le Grand Sud avec Eric Revel qu'on a abordé tout à l'heure. Mais il y a aussi une autre question, c'est cette vaccination. Où en est-on précisément? Et ce qui s'est passé, notamment en Alsace, qui a beaucoup choqué. Nous sommes avec Patrick Fogg, de médecin généraliste à Mulhouse. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous vous êtes filmé en train de jeter des vaccins AstraZeneca à la poubelle, faute de patients, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils avaient annulé?
Alors, c'est pire que ça, c'est-à-dire que depuis début mars, on vaccine beaucoup. J'ai fait plus de 180 vaccins depuis le début de la campagne. Et là, petit à petit, on se rend compte que les patients rejettent, ont peur de ce vaccin et ne se vaccinent plus. Mmh. Donc, quand j'ouvre un flacon le lundi, c'est la semaine dernière, lundi, un flacon de 10 doses, je pense que dans les trois consultations qui viennent du lundi, mardi, mercredi, je trouverai facilement les 10 patients qui acceptent. Et arrivé mercredi à midi, au bout des 48 heures, donc à péremption du vaccin, je me suis rendu compte que je n'avais réussi à vacciner que 6 personnes. 6 personnes. Alors que les semaines précédentes, j'en vaccinais dans la même période 20 ou 30. Et donc, il a fallu faire ce constat que malheureusement, on n'arrive plus, la situation devient intenable et j'ai été obligé à cœur. Le cœur fendu de jeter ces doses de vaccins, ce qui est incroyable à Mulhouse, qui a été quand même touché par ce Covid, et donc de voir que même dans le cœur même du Creuset où a débuté l'épidémie, les gens ont, je ne sais par quel phénomène, sont complètement craintifs et pensent qu'on met sur le même pied la vaccination qui peut être dangereuse que le virus qui peut être mortel. Et c'est absolument un message effrayant. Je veux dire que en tant que médecin, je suis effrayé par cette situation, parce que du coup, ça va nous obliger à ralentir dans nos cabinets la primo-vaccination par l'Astra, parce que on va pas y arriver, quoi.
Mais on voit bien que les... Patrick Fogg, c'est quand même pas le cas partout, parce qu'il y a beaucoup d'autres endroits où, au contraire, on n'arrive pas à avoir justement de rendez-vous pour pouvoir se faire vacciner. Il y a beaucoup de patients, de personnes qui le signalent, qui voudraient, y compris donc à l'AstraZeneca que vous évoquez, qui n'y arrive pas. Donc, c'est étonnant, quoi. Ça dépend des endroits, hein.
Alors, c'est quand même une tendance, là. On a quand même vu des centres de vaccination qui ont été obligés de fermer les week-ends derniers parce que personne ne se présentait. Ils avaient du vaccin Astra. Ouais. Les gens ont clairement ciblé qu'il y avait deux types de vaccins. Les vaccins ARN qui semblent moins dangereux, même si au départ, rappelez-vous le débat au départ, les gens le refusaient. Ils disent non, je veux pas qu'on m'injecte du génome étranger. Et cette critique-là a complètement fondu. Maintenant, les gens pensent tous qu'ils vont faire une thrombose si on leur injecte du vaccin adénovirus. Mmh. Ce qui n'est pas vrai. Il y a un risque qui est réel, mais qui est extrêmement faible. On est de l'ordre de l'aléa thérapeutique de 1 pour 100 000 doses. Je veux dire, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup d'autres médications. Et je ne vois pas pourquoi maintenant, subitement, on se bloque sur ce vaccin alors qu'on a besoin d'accélérer la vaccination. Et surtout, je vous rappelle quand même que les vaccins adénovirus, tant le Johnson que l'Astra, étaient programmés pour vacciner la population jeune, active, là, maintenant, au mois de mai, juin, juillet, pour qu'on ait une immunité collective.
Patrick Fogg, il faudrait relancer une campagne de communication assez sérieuse de la part des autorités, parce que c'est elles-mêmes qui ont induit aussi le doute en suspendant et puis par ailleurs en ne recommandant pas à des personnes de moins de 55 ans d'aller se faire vacciner à l'Astra, quoi.
Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de communication.
Donc, quand vous avez 56, 57 ans, vous dites pourquoi les moins de 55 et moi, ce serait la même chose, quoi.
Voilà, exactement, sachant que si vous vous inscrivez sur un site de vaccin dernière minute, si vous avez 55 ans, vous pouvez très bien avoir un vaccin Pfizer si vous vous présentez à 7 heures du soir à la fermeture d'un centre.
Ouais. Et donc, enfin, oui, on le dit comme ça, c'est pas si évident que ça dans la réalité.
Voilà. Mais bon, ceci étant, la seule petite marge qu'on a encore, c'est de vacciner les gens de 55 à 60 ans, sachant qu'à 60 ans, les gens sont éligibles au Pfizer. Et donc, il y a cette petite tranche de personnes, je veux dire que ça devient intenable. Je veux dire que ces gens-là disent, bah, écoutez, si c'est, moi, je préfère attendre début juin ou même avant que ça s'ouvre, que le Pfizer s'ouvre à nous, ou sinon, je me débrouille pour en avoir, ou sinon, je ne le fais pas, quoi. Et donc, je pense que à force de changer ces changements de cible, je rappelle qu'au départ, le vaccin était interdit au plus de 65 ans, puis il a été ouvert au plus de 65 ans, puis il a été interdit une semaine, puis il a été rouvert, puis limité, interdit au moins de 60, de moins de 55 ans. On ne s'en sort plus. Je veux dire, le discours n'est pas clair, quoi. Alors que dans d'autres pays, on a très bien vu le premier ministre canadien, Justin
Trudeau,
Trudeau se faire vacciner à 49 ans, se faire vacciner parce qu'il dit, ben, nous, au Canada, on va changer les cibles parce qu'il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on accélère. Donc, ça sera possible dans certains pays de certains États du Canada dès 30 ans, dès 40 ans ailleurs, dès 55 ans. Je rappelle qu'en Angleterre, on peut vacciner dès 30 ans. Je rappelle qu'en Belgique, on peut vacciner dès 40 ans. Je dis qu'on est bloqué sur une recommandation de la HS qui est tout sauf médicale. C'est politico-administratif. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais il faut qu'on change ça rapidement. Sinon, la vaccination va stagner. On voit bien que les chiffres de vaccins à adénovirus stagnent. Et le Johnson arrive maintenant avec la limitation à 55 ans qui ne correspond à rien. Les États-Unis ont dit qu'on va vacciner tous les habitants des États-Unis à partir de 18 ans. Donc, on va pas tenir. Je veux qu'il faut qu'on clarifie les choses rapidement et qu'on fasse une campagne de vaccination en disant les virus, adénovirus sont efficaces. On a besoin d'eux pour avoir une immunité collective. Sinon, ça va être difficile.
Oui, mais restez avec nous, Patrick Fauque. Hein. On a des questions avec nos éditorialistes et nos auditeurs au 0826 300 300. Première réaction, Thierry Guerrier et Eric Revel. Thierry ?
Non, vous savez que je m'étais permis une histoire personnelle il y a 15 jours. Je vous avais expliqué que j'avais été avec une primo-injection.
Vous n'allez pas nous raconter votre vie à chaque fois, mais allez-y.
Une primo-injection AstraZeneca. Oui. Ce week-end, discussion avec un petit groupe de 6, dont des personnes de ma génération, la soixantaine. 3 sur 6 en région parisienne ont cette réflexion. T'as pas eu peur, AstraZeneca? Non, moi j'attends pour l'instant, je veux pas, j'ai refusé. Avec des cas qui ressemblent à celui du Dr Fogg, exactement identiques en région parisienne, alors qu'il y a en effet des listes, non pas d'attente, mais de la part des médecins, des places qui sont proposées, des créneaux libres, exactement.
Qui libèrent,
voilà, et c'est donc bien un problème de compréhension et de communication et une dimension politico-administrative, comme il le dit lui-même. Je suis totalement d'accord avec...
Éric Revel ?
Non, ben on a tout dit sur l'AstraZeneca. Il n'y a rien à ajouter. Je dirais simplement, pour prendre un exemple concret dont parlait le docteur Fogg depuis Mulhouse, c'est qu'à Nice, par exemple, il y a le week-end dernier, donc il y a 9 jours, on a fermé un immense vaccinodrome parce qu'il y avait 4000 ou 5000 doses d'AstraZeneca qui étaient proposées. Et il y a eu 58 personnes qui se sont inscrites. Voilà. Donc le décalage entre ce qui était proposé et... Alors je ne sais pas ce que sont devenus tous ces vaccins, j'en sais rien. Mais on a un vrai souci. Bon, voilà, je pense que tout a été dit sur la défiance vis-à-vis de l'AstraZeneca. Il n'y a rien à rajouter, sinon que tout est parti au nom du principe de précaution, d'une déclaration, vous vous en souvenez, du chef de l'État,
qui
avait dit, oh là là, petit problème. Voilà, mais on a tout dit, la défiance vis-à-vis de l'AstraZeneca, elle va pas s'améliorer.
Sauf qu'on avait ce matin des représentants des personnels enseignants qui reprennent aujourd'hui, bien sûr, et qui voudraient, mais qui ne peuvent pas encore avoir accès,
C'est ce que dit le docteur Fogg. Il y a une dimension folle dans la posture du ministère de la Santé et aujourd'hui de la HAS.
Oui, qu'on ouvre un peu et qu'on lâche. Mais je pense qu'ils ont quelques craintes. Donc vous ne pensez pas, docteur Fogg, aussi qu'il y a quelques craintes? C'est-à-dire que s'il y avait par la suite des attaques en justice, s'il y avait des cas avérés de thrombose sur des personnes plus jeunes et qu'il n'y ait pas le principe de précaution jouer en fait à l'extrême, quoi.
Alors, il y a deux choses. Déjà, depuis que j'ai mis cette vidéo, j'ai eu des dizaines de messages de gens qui veulent, des enseignants ou d'autres, qui ont 30-35 ans, qui sont au contact de la population, qui veulent être vaccinés absolument. Déjà, premièrement. Deuxièmement, ces problèmes de responsabilité, on est en état d'urgence. Il suffit que l'HAS, l'ANASM, le ministère disent on est en état d'urgence, on accepte qu'il y a un aléa thérapeutique et qu'on ne poursuivra pas les médecins qui vaccinent dans le cadre de cette situation d'urgence. Et le problème est réglé. Et qu'on ouvre la vaccination à tous les volontaires, qu'on arrête de faire des créneaux parce qu'on voit bien qu'on peut le contourner, qu'on fasse maintenant, puisqu'il y en a des vaccins Astra, entre autres, que tous les volontaires qui souhaitent maintenant, qui acceptent d'être vaccinés en tenant compte de ce petit risque, ce petit aléa, et ben qu'on puisse les vacciner parce qu'ils sont enseignants, parce qu'ils sont commerçants, parce qu'ils sont au contact de gens. J'ai vacciné un facteur donc qui fait la tournée, qui a des facteurs de risque. Il est un peu trop gros, il fume, il a un peu de diabète, il a un tout petit peu d'hypertension. Il m'a supplié, il a 48 ans, je l'ai vacciné la semaine dernière. Il m'a supplié de le vacciner, je l'ai vacciné. Ouais. Je suis hors des clous, vous comprenez bien.
Mais je suis
parfaitement dans mon rôle de médecin que de vacciner avec un vaccin efficace quelqu'un à qui ça peut profiter. Ouais, vous comprenez bien, c'est ça le problème.
Ouais. Franck est avec nous au 0826 300 300. Hein. Bonjour Franck.
Je vous appelle de Perpignan. Bonjour Franck.
Oui, bonjour à vous tous. Juste, je vais vous donner une info. Bon, c'est pas un scoop, hein. C'est une info qui avait plus de 25 ans. Oui, mais elle a quand même son importance. Ouais. Ma mère était infirmière en réa. Ouais. En service de réa, il y a plus de 25 ans. Les services de réa étaient déjà saturés en permanence. Donc, vous savez qu'on arrête de nous faire peur aujourd'hui en nous disant que les services de réa sont saturés. Ils le sont depuis plus de 25 ans.
On ne s'est pas adapté, quoi. C'est surtout ça depuis 25 ans.
Ouais. Mais bien sûr que c'est ça. Le service hospitalier est en déclin depuis 25-30 ans. Alors qu'on arrête de nous faire peur aujourd'hui en nous disant que les services sont saturés.
Alors, il y a des endroits, oui. C'est vrai, il y a maintenant il y a beaucoup plus de patients en fait liés au Covid et des opérations qu'on reporte. Hein. Ça c'est vrai, mais il y avait déjà cette saturation et on n'a peut-être pas bien géré les choses depuis ces années-là, hein, Franck.
Ben oui. De toute façon, c'est pas seulement dans le service hospitalier, hein. C'est tous les services publics qui sont en déclin depuis de nombreuses années, hein. Que ce soit le système hospitalier ou que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit l'éducation nationale, c'est le déclin total. Donc remette un peu les priorités là où elles doivent être, et ça
ira un peu mieux. Ouais, non mais ça c'est vrai. Mieux. Merci beaucoup, Franck. Franck, vous voulez réagir, 0826 300 300. Merci au docteur Patrick Fock. Vous allez quand même continuer d'un mot de vacciner.
Alors non, je ne vais pas continuer à faire des primo-vaccinations avec l'Astra, ça ne marchera pas. Ouais. On attend maintenant l'arrivée du Johnson, hein, qui est d'abord parce qu'il n'y a plus que 5 doses, c'est peut-être plus, il y a notre image de pour les patients. Par contre, l'autre problème, c'est qu'on est vraiment limité en doses. Par contre, j'ai vacciné 180 personnes à qui j'ai promis de faire la deuxième dose. Donc toutes les doses que je vais recevoir maintenant, je vais les conserver pour la deuxième vaccination.
Dans 12 semaines, 10-12 semaines, c'est ça.
Oui, donc j'ai commencé début mars, ça veut dire début juin, il faut que j'ai une quinzaine de flacons d'Astra. Si j'en reçois un par semaine, comme c'est le rythme actuel, je ne les aurai pas, quoi. Ouais. En plus, quoi, pour refaire que la deuxième dose.
Ouais.
Par contre, la première dose, je ne fais plus de primo-vaccination à la première dose dans mon cabinet. Ouais. Désolé.
Comme beaucoup d'autres généralistes aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Dans un instant, on va continuer le petit déjeuner d'actualité. On va aborder ce lien entre... Est-ce qu'il faut faire un lien entre immigration et... terrorisme, avec Patrick Stefanini notamment.
Restez avec nous, il est 9h01.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et on revient dans le petit déjeuner de l'actu sur l'assassinat de cette fonctionnaire de police par un clandestin régularisé qui relève une faille dans la politique migratoire de la France. Patrick Stefanini est avec nous, haut fonctionnaire spécialiste des questions d'immigration et ancien directeur de campagne de François Fillon et auteur de ce livre « Immigration, ces réalités qu'on nous cache » aux éditions Robert Laffont. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Patrick Stefanini. Est-ce que Valérie Pécresse a eu raison ce week-end, elle, mais il n'y a pas qu'elle, mais notamment de faire le lien entre immigration et terrorisme? Ou est-ce que c'est un résumé un petit peu court?
Non, je crois qu'elle a eu raison. Bien sûr, la France a connu des attentats terroristes qui ont été commis par des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'immigration. Je rappelle aux plus jeunes que dans les années 84-87, Action Directe a fait des ravages en matière de terrorisme en France, en s'en prenant notamment à des policiers et à des chefs d'entreprise, et ce mouvement n'avait rien à voir ni de près ni de loin avec l'immigration. Il n'en reste pas moins que depuis une trentaine d'années, on constate que beaucoup d'attentats à connotation islamiste sont commis par des étrangers ou par des Français, mais qui sont eux-mêmes issus de l'immigration et dont le processus d'intégration ou d'assimilation en France a été un échec.
Ah oui, c'est ça. Ben, voilà, c'est le processus d'intégration qui est un échec. C'est en cela qu'on peut faire le lien précisément avec l'immigration sur le volet terrorisme.
Oui, bah, si vous prenez par exemple la vague d'immigration des années 95,
oui.
Vous vous souvenez du nom du terroriste abattu par les gendarmes à proximité de Lyon, c'était Khaled Kelkal. Khaled Kelkal, c'était typiquement un enfant du regroupement familial. Ses parents étaient arrivés en France à la fin des années 60, début des années 70. Son père avait fait venir le reste de sa famille. Voilà, c'était donc un enfant du regroupement familial. Alors, depuis, évidemment, les choses ont évolué. Et plusieurs des auteurs d'attentats, notamment les attentats du Bataclan, sont plutôt des personnes qui sont nées en France, qui sont devenus français automatiquement parce que notre code de la nationalité le permet à partir d'un certain âge, mais qui en pratique, pour des raisons diverses, souvent liées à des perturbations dans le fonctionnement de la cellule familiale, mais pas seulement, pour des raisons donc diverses, ont échoué dans leur processus d'assimilation en France et se sont laissés... prendre en main par la mouvance islamiste.
Oui. Bon, alors, donc ça, c'est un premier point. Donc, pour vous, c'est assez clair. On doit faire le lien d'une manière ou d'une autre entre immigration.
Il faut s'exprimer avec nuance. Et connaissant Valérie Pécresse, je sais qu'elle l'a fait. Naturellement, encore une fois, tous les terroristes ne sont pas des immigrés et tous les immigrés ne sont pas des terroristes.
Bah oui, de résumer, sinon.
Il n'en reste pas moins que la majorité des attentats commis en France au cours des 5 dernières années, l'ont été par des personnes issues de l'immigration.
Oui, et il y a notamment aussi l'immigration régulière. Hein. Vous avez parlé du regroupement familial, ça c'était il y a quelques années. Ensuite, il y a eu ces dernières années l'immigration irrégulière des clandestins qui ensuite ont été régularisés. C'est le cas par exemple de ce Tunisien. Est-ce qu'il faut revoir les conditions, même si on les a déjà un petit peu revues ces dernières années, les conditions d'attribution également de la nationalité française?
Oui, mais alors il faut distinguer deux sujets. La régularisation, ce n'est pas l'attribution de la nationalité française, c'est l'attribution d'un titre de séjour.
Oui, totalement.
Et honnêtement, on n'a pas vraiment revu les conditions de régularisation. Chaque année, la France régularise à peu près 30 000 ressortissants étrangers. C'est beaucoup, c'est même considérable si on se souvient qu'au total, la France délivre en moyenne, depuis quelques années, environ 260 ou 270 000 titres de séjour par an. Donc 30 000 régularisations. Ça veut dire qu'en fait, plus de 10% des étrangers qui obtiennent un titre de séjour n'y avaient pas droit au regard de la loi. Et ça, c'est un vrai problème. Nous avons abandonné deux principes. Le premier principe, c'est que quand on entre en France de manière irrégulière, on ne peut pas être régularisé. Ça, c'est un vieux principe. Nous n'aurions pas dû l'abandonner. Et deuxièmement, je prends l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, lorsque vous souhaitez obtenir un titre de séjour de longue durée, si vous êtes présent sur le territoire américain avec un visa de court séjour, votre dossier de demande de titre de séjour ne sera pas examiné. Les Américains exigent, pour ouvrir un dossier de régularisation, c'est-à-dire pour ouvrir un dossier de délivrance de titre de séjour, ils exigent que la demande soit formulée par quelqu'un qui est encore présent à l'étranger.
Oui.
Donc nous avons beaucoup de progrès à faire en matière de régularisation. Et le premier de ces progrès consisterait à poser en principe qu'un étranger entré irrégulièrement en France ne peut pas être régularisé. Il doit repartir dans son pays d'origine, déposer une demande de visa et son dossier sera instruit au consulat.
Sauf s'il fuit la guerre ou une situation d'urgence.
Bien sûr. Mais ça, le cas des demandeurs d'asile, est prévu par la législation française. Nous avons d'ailleurs, pour une fois en la matière, une législation qui est satisfaisante, puisque nous avons la possibilité d'instruire les demandes d'asile à la frontière. C'est-à-dire lorsqu'un étranger se présente à la frontière française sans visa, sans papier, parce qu'il fuit son pays d'origine où il est persécuté, nous instruisons sa demande à la frontière. Oui. Malheureusement, comme vous le savez, la demande d'asile est dévoyée, c'est-à-dire que beaucoup d'étrangers pénètrent sur le territoire français, et ensuite, pour contourner nos lois sur l'immigration, ils demandent l'asile. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ouais. Question de Thierry Guerrier, Patrick Stefanini, qui est avec nous, Thierry. Oui. Oui, allez-y, Thierry.
Patrick Stefanini, Xavier Bertrand, faites de cet argument que vous venez d'évoquer, cette tradition française du fait que quand on était entré illégalement, on ne pouvait pas être régularisé, il en fait aujourd'hui un argument de campagne, puisqu'il dit, moi, président, eh bien, je n'accepterai pas que l'on puisse être régularisé si on est entré clandestinement, je reviendrai à ce principe.
Ben, je crois qu'il a raison.
C'est pour vous un argument qui portera dans la campagne ?
Bon, écoutez, je ne sais pas de quoi sera faite la campagne. Ce dont je suis certain, en revanche, c'est que la droite qui a soutenu François Fillon à la dernière élection présidentielle, cette droite n'a la possibilité d'être dans le jeu pour la prochaine élection en 2022 que si elle porte sur le régalien des positions d'une très grande fermeté. J'observe que vous y avez fait référence au début de cette émission. C'est aussi le cas de Valérie Pécresse.
Ah oui, Valérie Pécresse et d'autres candidats. Est-ce que là, il y a encore la possibilité au sein de l'Europe de renforcer les contrôles aux frontières
parce qu'évidemment, c'est pas une possibilité, c'est une nécessité.
Oui, absolue. Oui. Mais dans le cadre actuel de la législation, est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. Nous devons faire. Il y a plusieurs pays européens. Je pense notamment à la Grèce et à l'Italie, qui, en raison de leur situation géographique, sont particulièrement exposés à l'immigration clandestine. Et on sait que les immigrants qui pénètrent en Italie ou qui pénètrent en Grèce, ensuite, ils se répartissent sur tout le territoire européen. Donc, il faut faire jouer la solidarité avec les pays qui éprouvent des difficultés à contrôler leurs frontières extérieures, notamment parce qu'ils ont beaucoup d'îles et que ces îles sont parfois situées à une très proche distance de la Turquie pour la Grèce, de la Tunisie pour l'Italie. Eh bien, nous devons tous ensemble, au niveau des pays européens, nous mobiliser pour que le contrôle de la frontière extérieure de l'Union européenne soit satisfaisant. Ça ne suffira pas, je suis clair, ça ne suffira pas à déjouer tous les risques d'attentats terroristes. Je rappelle qu'une partie des terroristes vivent déjà en France, sont parfois français d'origine, se sont radicalisés. Dans son dernier ouvrage, M. Hakim El-Karoui, ouvrage consacré aux djihadistes, au djihadisme français, il révèle que 35% des djihadistes sont des Français convertis. Donc vous voyez que la menace, elle est aussi une menace intérieure, mais en la matière, il faut faire flèche de tout bois. Il faut à la fois mieux contrôler nos frontières, et notamment mieux contrôler les frontières extérieures de l'Europe, et en même temps, il faut conduire, et c'est une tâche extraordinairement difficile, et je voudrais rendre hommage au travail des services de renseignement et au travail des policiers et des gendarmes qui font ce travail, il faut être en état de vigilance permanente sur ce qui se passe en France. Vous savez, moi, la conviction à laquelle je suis parvenu au vu des événements qui se sont produits depuis maintenant 5 ou 6 ans dans notre pays, c'est que nous devrions nous inspirer, hélas, de ce qui se fait en Israël, dans la société israélienne, où la menace d'attentat est particulièrement élevée et où les Israéliens ont appris à vivre avec cette menace, mais ils ont appris à vivre avec cette menace en étant en permanence sur le qui-vive, en mettant en place des dispositifs de surveillance, de sécurité, de prévention des actes terroristes qui sont extraordinairement perfectionnés. Alors évidemment, c'est contraire à un des traits de caractère des Françaises et des Français, c'est-à-dire une certaine forme d'insouciance, eh bien, je crois que le temps de l'insouciance est définitivement derrière nous.
Oui, c'est vrai. Bon, alors, il y a un plus grand territoire aussi à surveiller et davantage d'habitants en France, hein, Patrick Stefanini. Donc, ce qui complique évidemment la tâche. En un mot, parce que dans votre livre, je le rappelle, Immigration, c'est réalité qu'on nous cache, vous estimez à combien, justement, les gens qui rentrent encore illégalement aujourd'hui en France et combien de personnes sont entrées depuis une dizaine d'années?
On estime que le nombre des clandestins, il est au moins de 320 000 personnes, puisqu'il y a en France 320 000 attributaires de ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, qui est une allocation réservée aux étrangers en situation irrégulière. Donc, si j'ose dire, il y a une statistique officielle du nombre des clandestins. Vous voyez, hein, statistique officielle du nombre des clandestins, c'est un paradoxe, mais on peut l'employer. C'est donc au minimum 320 000 personnes. La plupart des experts considèrent que le nombre des clandestins est deux fois supérieur à ce chiffre.
Merci beaucoup Patrick Stefanini, haut fonctionnaire spécialiste des questions d'immigration et auteur de ce livre, justement, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, aux éditions Robert Laffont en 2020. Merci Thierry Guerrier, Éric Revel et vos appels, 0826 300 300. Vous allez pouvoir continuer d'appeler dans un instant sur, avec notre prochain invité et un thème très large que nous allons évidemment aborder.
Alors Emmanuel Pierrat sera avec nous, hein, qui est un avocat. On va revenir avec lui sur pas mal effectivement de sujets. Ce livre, ça s'appelle Fou Ballant, Trompe la mort, qui est le surnom donné à son papa, parti en Algérie. Et aux éditions Flammarion, on reviendra avec lui. Vos appels 0826 oui.
L'engagement militaire, l'engagement militaire, l'Afrique, l'Algérie, la relation père-fils, mais aussi, c'est un des autres sujets de préoccupation en permanence d'Emmanuel Pierrat, la liberté d'expression.
Absolument, à tout de suite.